Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et comme chaque jour sur Europe 1, c'est l'heure de la détente et de l'évasion avec Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Et avant toute chose, vous souhaitiez dire un mot de l'émission de demain qui aura lieu en direct de l'abbaye de Fontevraud.
Et oui, nous nous déplaçons demain pour une émission qui aura effectivement lieu en direct de ce merveilleux endroit, inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Alors nous nous promènerons dans l'abbaye en compagnie d'architectes, d'historiens. Nous allons évoquer bien sûr là-bas le destin d'Aliénor d'Aquitaine. D'ailleurs, on sera au pied même de sa tombe, devant son gisant, dans le cœur de l'abbatiale.
Ne manquez donc pas le rendez-vous demain vendredi à 13h30. Vous savez que vous pouvez aussi retrouver l'émission sur le site d'Internet Europe 1. Vous êtes d'ailleurs toujours aussi nombreux à la télécharger. En attendant, Franck, dès aujourd'hui, vous nous emmenez au Moyen-Âge.
Mais oui, puisqu'on va célébrer bientôt, ce sera donc le 22 juillet, le 550e anniversaire de l'avènement de Louis XI. Louis XI, un monarque de grande envergure, qui a joué un rôle essentiel dans la construction de la France, après Philippe Auguste et Philippe le Bel, avant François Ier et Louis XIV, pour ne citer que nos plus grands monarques. Et pour nous parler de Louis XI, c'est un de nos grands médiévistes qui sera là, puisque Jean Favier est avec nous dans ce studio.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
C'est une épine dans le pied du roi de France. En cette année 1467, qui est la sixième du règne de Louis XI, la puissance bourguignonne constitue véritablement un danger pour le royaume d'Hélice. Or, l'héritier de cette puissance bourguignonne, le nouveau duc Charles, on l'appellera Charles le Téméraire, est en passe de s'allier avec l'Angleterre. Ainsi, la France pourrait se retrouver prise en tenaille par une alliance anglo-bourguignonne d'autant plus menaçante qu'elle pourrait séduire aussi le duché de Bretagne. Tout ça rappelle des événements qui ne sont pas si vieux, évidemment, qui ont un demi-siècle. On vient juste de sortir de la guerre de Cent Ans. Le Louis XI dont je vous parle donc là pour le moment, ce n'est pas encore le vieux souverain impénétrable de Plessis-Lestours, vous savez, avec son visage disgracieux sous un chapeau de bièvre, c'est-à-dire de castor. En 1467, Louis XI a 44 ans. Il est marié depuis une dizaine d'années à sa seconde épouse, Charlotte de Savoie. C'est un homme d'action, de mouvement, c'est un cavalier infatigable, un gros mangeur, grand buveur. Un homme qui est très simple dans ses habitudes, très proche du peuple, qu'il côtoie volontiers. Un amoureux des animaux aussi, nous aurons tout à l'heure l'occasion d'y revenir. Il aime les chiens, les oiseaux, mais aussi les animaux exotiques, les loups, les rennes, même les lions. Nous reviendrons donc avec Jean Favier sur la personnalité, sur les habitudes et puis sur la légende noire de ce roi sans doute mal compris. En attendant, face à cette menace d'encerclement, face à cette alliance renouvelée entre Bourgogne et Angleterre, Louis XI n'hésite pas. Il attaque le duc de Bretagne sans que Bourgogne ait eu le temps de réagir. C'est le coup de semonce et puis, fort de ce premier succès en Bretagne, il lance des négociations directement avec le Téméraire. Dans l'idée du roi de France, les pourparlers avec son cousin Charles doivent être directs, si vous voulez. Ils ne doivent pas être biaisés par des émissaires ou toutes sortes de diplomates de carrière. Louis et Charles devraient pouvoir se parler comme ça, face à face, entre hommes, entre cousins. Louis XI manœuvre dans cette affaire en confiance. Il se sait habile négociateur. C'est un homme qui est assez fin, assez dissimulateur aussi, assez rapide calculateur pour tirer son épingle du jeu. Les chroniqueurs développeront l'image, vous savez, du gros bourdon, Charles, pris dans la toile d'araignée de Louis, l'universel araigne. C'est ainsi que ses détracteurs surnommeront Louis XI. Il y a naturellement, dans la démarche du roi Louis XI lorsqu'il propose à Charles le Téméraire des entretiens directs, il y a une part de bluff, c'est certain. Autour du roi, ses conseillers se montrent sceptiques quant à cette démarche. Ils tentent de le dissuader par tous les arguments possibles et voyant qu'ils n'y parviendront pas, ils adjurent au moins le roi de s'entourer pour cette rencontre d'une armée capable d'impressionner son interlocuteur. Mais ça, c'est exactement le contraire de la tactique de Louis XI. Lui ne veut, il ne veut pas montrer sa supériorité militaire. Il n'est pas question pour lui d'arriver à la tête d'une immense armée. Il veut que, encore une fois, entouré de quelques conseillers, il puisse se présenter désarmé face à Charles de Bourgogne. « Laissez-moi faire, dit Louis XI, laissez-moi négocier en paix, je lui ferai accepter ce que je voudrais. » « C'est insensé, pensent les ministres. C'est périlleux, marmonnent les capitaines. Seulement, comment aller contre une idée du roi, surtout une idée de ce roi si obstiné, si décidé, si sûr de lui ? Louis XI, c'est bien connu, n'en fait qu'à sa tête. Il propose l'entrevue à son cousin et il lui demande, pour le cas où il accepterait, de lui faire parvenir un sauf-conduit afin de se rendre tranquillement et sans danger jusqu'au lieu du rendez-vous. La réponse ne tarde pas, elle est de la main même du téméraire. « Monseigneur, écrit le duc Charles, je me recommande très humblement à votre bonne grâce. Sire, s'il est en votre bon plaisir de venir en cette ville de Péronne, voilà le lieu de l'entretien, de venir à Péronne en vue que nous puissions converser ensemble, je vous jure et promets sur ma foi et sur mon honneur que vous pouvez y venir rester et séjourner et retourner en sûreté à Chauny ou Noyon selon votre bon plaisir et aussi souvent qu'il vous plaira, librement et ouvertement, sans qu'aucune difficulté soit faite à vous ou à vos gens, par moi ou par un autre, pour quelque cause qui existe maintenant ou qui puisse surgir par la suite. » Voilà qui est clair. Voilà de belles garanties de la part du duc de Bourgogne. Et même sans doute une certaine imprudence. Parce qu'après tout, qui garantit à Charles que Louis, une fois sur ses terres, une fois arrivé en Bourgogne et fort de cette immunité proclamée, ne va pas profiter de la situation pour intriguer à son habitude, pour manœuvrer dans un sens défavorable à la Bourgogne ? Ce qu'il y a d'étonnant dans cette lettre du duc de Bourgogne au roi de France, c'est que l'engagement y est unilatéral. Il est sans contrepartie d'aucune sorte de la part de Louis XI. Autant dire que, d'ores et déjà, et avant même que la première entrevue n'ait eu lieu, Louis XI peut considérer qu'il a remporté la première manche. Il a lié son interlocuteur par un engagement d'honneur qui, de manière inespérée, lui laisse de son côté les mains libres. Alors évidemment, quand on connaît la suite, quand on sait ce qui va se passer à Péronne, il est tentant de penser qu'en vérité, Charles le Téméraire était en train de tendre un piège à Louis XI et qu'il ne pensait pas un mot de ce serment, de cette lettre de garantie qu'il lui adressait. Mais si on se replace dans le contexte, dans le déroulement des faits, il semble bien qu'une telle intention n'ait pas effleuré le Bourguignon. Vous savez, Charles le Téméraire est un homme assez franc du collier, si je puis dire. Il est tout d'une pièce. Il est loin d'avoir la rouerie, la duplicité du roi de France. Il est, somme toute, un chevalier qui obéit à des principes un peu dépassés peut-être en cette fin de XVe siècle, mais qui, lorsqu'il accorde le sauf-conduit, est très probablement de bonne foi. Ce qui veut dire que Louis, au moment où il quitte Ham, on est là le 9 octobre 1468, au moment où il s'apprête donc à se rendre en Bourgogne, accompagné seulement de 2 prélats, de quelques conseillers et de 80 archers écossais, tout de même, enfin c'est pas grand-chose, hein, c'est une escorte légère, Louis XI a de très bonnes raisons de se fier à la parole de son cousin. C'est une entrevue qui s'annonce franche, droite, apparemment cordiale.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui nous relate aujourd'hui sur Europe 1, l'avènement de Louis XI, Franck.
Oui, alors Louis XI est déjà roi là depuis 7 ans en fait. Il est roi depuis 7 ans, il est en route pour Péronne où il va s'entretenir avec Charles Téméraire. C'est cette fameuse entrevue. Alors, La première entrevue, le premier contact est tout à fait cordial, il est même chaleureux. Les embrassades, les marques de politesse n'en finissent pas. Vous savez, Louis XI est capable de se montrer d'une courtoisie extrême, à la limite de l'obséquiosité, lorsque les intérêts qui sont les siens sont en jeu. Il joue la comédie, n'en doutons pas. Mais Charles, de son côté, est sans doute assez sincère. Alors, on les voit qui cheminent à cheval, botte à botte, jusqu'à Péronne. Louis, pendant tout ce petit trajet, a posé une main fraternelle sur l'épaule de Charles. Il sourit. Vous savez, il a cette espèce de faciès enjoué auquel il ne faut surtout pas trop se fier. Il parle très vite, le roi de France. Il a l'air tout heureux de cette rencontre et il prend ses quartiers, dans un premier temps, dans la maison d'un riche bourgeois qu'on a aménagé pour lui. On estimait que le château de Péronne était vétuste, qu'il était très peu confortable et donc le duc de Bourgogne lui avait fait aménager des appartements dans une belle gentilhommière. Seulement voilà, une fois installé, une fois à la croisée de sa chambre, Louis XI aperçoit dans la cour plusieurs chevaliers bourguignons qu'il considère comme des ennemis personnels. Ça, c'est un mauvais augure. Le roi se raidit et même il prend peur. Il demande au duc de Bourgogne qu'on transfère ses appartements au château. Ce serait quand même plus facile à défendre, se dit-il. Et là, évidemment, Charles est surpris. Il sait que ce château est inconfortable. Il pensait avoir pourvu au mieux à l'aisance de son cousin. Bon, enfin, puisque c'est un souhait de Louis, il accède à cette demande. Le château de Péronne, disons-le, est un lieu tout à fait sinistre. La garde bourguignonne est visiblement malheureuse de s'y trouver. Bref, l'atmosphère se dégrade à vue d'œil. Une sorte de climat de méfiance s'installe qui va peser sur le premier entretien entre Charles et Louis, ce premier entretien qui a lieu dès le lendemain. Il faut dire que d'emblée, les demandes de Louis XI sont très exigeantes. Et bien sûr, en face, Charles et ses conseillers ont tendance à se cabrer. Pendant 2 jours, les négociations vont donc piétiner. Elles donnent lieu à des échanges qui, disons-le, sont de moins en moins courtois. Vous savez, ce genre d'entretien où on arrive plein de bonnes intentions, on dit on va s'entendre, etc. Et puis peu à peu, chacun campe sur ses positions et ça finit par devenir assez tendu. Or, voilà qu'en plein pourparlers, survient la nouvelle du soulèvement de Liège. Liège qui, à l'époque, se trouve en terre bourguignonne. Cette nouvelle, elle est chuchotée à l'oreille du duc de Bourgogne. Évidemment, Charles est seul averti, ça il faut bien le préciser. Pour Louis, il va falloir deviner ce qui se passe. Il voit bien qu'il y a de l'agitation, il entend des rumeurs, il faut décrypter les points de vue des uns et des autres. Ce sont, vous savez, des rumeurs que Louis XI est entouré de bourguignons, bien entendu, mais il a du mal à savoir ce qui se passe. Charles le Téméraire, en réalité, est mis en difficulté à Liège, qui est une de ses grandes villes. Or, personne n'ignore que Louis XI a depuis longtemps armé en secret les émeutiers liégeois. Et aussitôt, on peut dire que la méfiance change de camp, ou pour être plus exact, qu'elle s'étend maintenant au camp bourguignon. Charles est saisi de doutes affreux. Il se demande s'il n'a pas été l'objet d'un piège tendu par son rusé cousin, le roi de France, et si, après tout, tout cela n'était qu'un coup monté pour le déstabiliser. Le soir même, ordre est donné à la garnison de ne laisser sortir personne du château. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, bien ça y est, Louis XI est plus ou moins en résidence surveillée. Il se sent à son tour pris au piège. Il demande des explications. Il n'obtient que des excuses ridicules. On lui parle d'un vol de bijoux qui justifie le renforcement de la sécurité. Tout ça n'a pas tellement de sens. Finalement, Louis XI apprend à son tour la nouvelle du soulèvement de Liège. Et là, il comprend naturellement pourquoi son cousin s'est à ce point inquiété. Alors, pour prouver sa bonne foi, il demande le privilège d'accompagner Charles dans une expédition punitive contre les rebelles. C'est assez bizarre comme attitude, puisque si c'est lui qui arme les émeutiers en sous-main, se mettre à la tête de l'armée qui va venir les écraser, vous avouerez que c'est faire preuve d'une certaine duplicité. Mais le roi de France, visiblement, n'est pas à cela prêt. Charles feint d'accepter, seulement il renforce encore la surveillance étroite autour de son cousin et bientôt le roi de France se trouve en quasi-prison. Il ne peut même plus quitter librement ses appartements. Ainsi, Louis XI se retrouve-t-il dans la nasse, mais en parallèle, un autre piège. qui est un piège moral cette fois, oblige plus ou moins Charles à maintenir le roi de France en détention. Parce que maintenant qu'il a fait le premier pas, maintenant qu'il est allé très loin dans la surveillance et dans la contrainte envers son cousin, il sait très bien, il connaît assez Louis XI, pour savoir que dans l'hypothèse où il serait élargi, dans l'hypothèse où il recouvrerait son entière liberté, les représailles contre la Bourgogne ne se feraient pas attendre. Ainsi, le téméraire se voit-il pressé par ses conseillers de se montrer le plus intraitable possible avec le roi de France. Oh, dans ce genre de circonstances, normalement, on n'a pas le choix. Il faut tuer l'adversaire. Il n'y a pas vraiment... Alors, évidemment, certains conseillers sont plus modérés. Ils profitent, ils proposent à Charles le Téméraire de déposer Louis XI et de faire couronner à sa place le duc de Bretagne. D'autres sont bien plus radicaux et vont jusqu'à envisager, évidemment, de supprimer le roi. Vous vous rappelez la lettre de garantie de Charles. « Mais venez, mon cousin, vous serez en toute tranquillité, on ne vous fera pas de mal sur mes terres. » Pour un homme comme Charles le Téméraire, c'est une torture. Il est face à un dilemme terrible. Soit il tient sa parole de chevalier, soit il risque de sanglantes rétorsions sitôt son cousin libéré. La solution adoptée sera celle du moyen terme. Les Bourguignons décident de profiter de la position délicate du roi pour lui faire signer un traité à leur convenance.
Extrait sur Europe 1 de la bande originale de la série de Claude Barma, Les Rois Maudits, Franck.
Et oui, vous vous rappelez Les Rois Maudits, les vrais, si j'ose dire, cette belle série. Alors évidemment, on n'est pas à la même époque, là. Hein. Les Rois Maudits, c'est plus ancien, mais je trouve que ça fait médiéval.
Ça correspond bien quand même.
On est dans l'ambiance.
Oui.
Alors, c'est Comines qui nous raconte cette nouvelle entrevue plus que tendue entre Louis XI et Charles le Téméraire. Là maintenant, ils sont vraiment dans une situation de très grand conflit. Et sitôt, nous dit le chroniqueur, sitôt qu'il vit le duc entrer dans sa chambre, le roi ne put celer sa peur et dit au duc « Mon frère, ne suis-je pas sûr en votre maison et en votre pays ?»« Ne suis-je pas sûr, c'est-à-dire est-ce que ma sûreté n'est pas assurée ?» Et le duc lui répondit, nous dit Comines, « Monseigneur, oui, et si sûr que si je dois voir venir un trait d'arbalète sur vous, je me mettrai au devant pour vous garantir. » Et le roi lui dit, « Je vous remercie de votre bon vouloir et veux aller où je vous ai promis, mais je vous prie que la paix soit dès maintenant jurée entre nous. » Alors, où Louis XI a-t-il promis à Charles le Téméraire qu'il allait se rendre? Eh bien, c'est précisément à Liège, pour l'aider à mater cette fameuse révolte dont on sait en vérité qu'il a été, plus ou moins et en sous-main, l'instigateur. Finalement, un traité est signé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un traité signé sous la contrainte. Et évidemment, traité qui donne toute satisfaction aux Bourguignons. Il détache les quatre lois de Flandre du ressort du Parlement de Paris, ce qui permet en fait au duc de Bourgogne de faire ce qu'il veut à peu près de Gand, de Bruges, d'Ypres, de tout ce qu'on appelle le franc de Bruges, sans que la France puisse intervenir. On accorde aux frères du roi Charles de Bourbon la Champagne et la Brie. Et surtout, Louis XI consent donc, ce qui est assez curieux et un peu déshonorant pour lui, consent à participer aux représailles qu'on va infliger aux Liégeois pour cette révolte, une révolte dont il a encore une fois été pourtant l'un des principaux instigateurs.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Thank you.
musique pour Lutte de Marco dall'Aquila, car nous sommes toujours sur Europe 1 au cœur du bras de fer entre Louis XI et Charles le Téméraire, Franck.
Alors, vous vous rappelez qu'au moment où Louis XI était arrivé à Péronne, il avait été reçu très cordialement et plus que de façon courtoise par son cousin Charles le Téméraire et qu'ils avaient chevauché botte à botte tranquillement jusqu'à Péronne. Eh bien, c'est à peu près la même scène à laquelle on assiste le 14 octobre, donc 1468. Les voilà qui repartent de Péronne pour s'en aller, coude à coude, aller mater cette révolte des Liégeois. La campagne est très courte. Hein. On les voit partir donc le 14 octobre et le 30 octobre, la ville tombe déjà aux mains du duc. Donc ça a été une affaire assez vite réglée. Je ne vais pas entrer dans les soubresauts et dans les péripéties de ce siège et de cette campagne. Ce qu'il faut dire, et qui est assez incroyable lorsqu'on y songe, c'est que Louis XI était d'excellente humeur. Il ne voulait pas, si vous voulez, qu'on puisse l'accuser de sympathie pour les insurgés. Alors du coup, il en rajoutait, évidemment. Et pour complaire à son terrible cousin, eh bien, il n'a pas cessé de se réjouir de tout ce qu'on pouvait infliger aux assiégés et aux révoltés. Et d'ailleurs, il sera de ceux qui vont inciter le duc de Bourgogne à la plus grande sévérité. Mon père, dit-il, avait autrefois un arbre élevé, quand il dit mon père, il parle en l'occurrence bien sûr de Charles VII, avait un arbre élevé près de sa maison et les corneilles qui avaient construit leur nid dans les branches tombaient de sommeil. Il fit enlever le nid, mais les corneilles le rebâtirent. Il recommença la même opération, mais les corneilles revinrent toujours. À la fin, il fit couper l'arbre aux racines et depuis lors, il dormit son repos. En fait, l'idée de Louis XI est d'être d'une très grande dureté et il approuve et il fait participer au massacre des rebelles. Et quand je dis des rebelles, de tous ceux qui ont le malheur de se trouver dans les murs ce jour-là et qui ne sont ni des femmes, ni des enfants, ni des ecclésiastiques. Ces gens-là ont été écartés, bien entendu, et puis on tue tous les hommes en âge de combattre. Et Louis XI ne quitte jamais cette espèce de sourire qu'il a toujours et qui montre qu'il approuve la sévérité de son cousin dans cette affaire. En attendant, il est presque libre. Et malgré cette gaieté, bien entendu, il trépigne, il n'a qu'une hâte, c'est de s'éloigner de son cousin, bien entendu. Dès que la destruction de Liège est assurée, il prend congé du duc, qui va l'escorter quasiment jusqu'à la frontière et lui dire adieu. On peut dire que le siège de Liège a fait office entre eux d'une forme de réconciliation et que dans ces conditions-là, Charles le Téméraire peut s'estimer quitte. Il pense probablement que Louis XI ne lui en voudra pas davantage. Il faudrait être un peu naïf, cela dit, et on peut faire confiance non seulement au duc de Bourgogne, mais à ses conseillers pour savoir que le roi de France ne s'en tiendra pas là. Non seulement Louis XI va poursuivre le duc et sa contrée d'une véritable rancune, mais c'est en vérité le début d'une très longue... Vous parliez de bras de fer, Julia, tout à l'heure. C'est un bras de fer qui va durer encore des années et qui finira tragiquement, comme nous allons le voir dans la deuxième partie de l'émission. Alors dans cette deuxième partie de l'émission, en compagnie de Jean Favier, qui est un de nos plus grands auteurs médiévistes et qui en l'occurrence est aussi le biographe de Louis XI bien entendu, on va essayer d'aller un peu plus loin dans cette affaire entre France et Bourgogne, d'expliquer la situation politique du pays, mais on va aussi tenter de connaître le personnage, de savoir quels étaient ses goûts, ses distractions, quelles étaient ses qualités, elles étaient nombreuses je pense, en avoir déjà souligné quelques-unes, mais aussi ses défauts, qui n'étaient pas moins nombreux. Nous verrons aussi que Louis XI était sans doute un personnage lymphatique, extrêmement nerveux, sujet à des crises d'angoisse, à des anxiétés nocturnes, à des maux de tête et des étouffements. On a cru à l'époque qu'il était épileptique, tellement son attitude était souvent presque à la limite du contrôle. La nuit, ses crises de suffocation l'obligeaient à dormir assis. Il était sans doute atteint d'asthme aigu. Bref, c'est un personnage, vous l'avez compris, très torturé. C'est un personnage finalement assez malaisé que nous allons essayer de décrire avec Jean Favier dans la deuxième partie de cette émission. Et puis nous parlerons aussi de ses épouses, de ses maîtresses, de ses enfants légitimes et illégitimes. Bref, on va pour ce 550e anniversaire essayer de faire à peu près, et même si nous n'avons pas un temps fou, à peu près le tour de la question.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On vous retrouve, Franck, avec votre invité sur Europe 1, l'historien médiéviste Jean Favier, auteur notamment d'une biographie sur Louis XI chez Fayard.
Oui, notamment au milieu d'une très abondante bibliographie. Jean Favier, vous êtes chartiste, bien entendu. Vous avez été le directeur général des Archives de France, puis le président de la Bibliothèque nationale de France. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir. Je suis très flatté.
C'est un plaisir.
Et vous êtes sans doute un de ceux qui connaissent le mieux, évidemment, Louis XI. Nous étions en train de dire, juste avant que ça ne reprenne, là, qu'en fait, on avait de Louis XI une image assez juste grâce à un grand nombre de portraits qui sont des portraits très sûrs.
On a même en particulier des médailles,
oui,
et en sorte qu'on a le relief. On sait que son visage était notamment caractérisé par un très long nez. Et on n'a aucune surprise à ce sujet. Ce qui est original, c'est
beaucoup
que...
Beaucoup de chair sur beaucoup d'os, hein, si je puis dire. Quand on voit, là, j'ai un portrait sous les yeux, justement, le nez est très proéminent.
Ah, très,
c'est
très...
le nez qui fait l'homme, si
tout,
je puis dire.
Tout à fait. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même assez significatif, c'est un portrait aussi. Nous ne l'avons que par des gravures antérieures à la Révolution.
Et oui.
Mais c'est son tombeau. Car il est le seul roi de France qui a refusé
le tombeau de
d'être figuré allongé sur le dos de ce qu'on appelle un gisant. Non, il s'est fait représenter sur son tombeau, à genoux devant la Vierge, en costume de chasse, avec son petit chapeau et son couteau de chasse. C'est le seul, ce qui montre bien l'originalité du personnage. Il n'accepte pas les conventions, il n'accepte pas qu'on lui dise un roi de France, c'est ça, il dit oh, merci, c'est moi.
Et dans votre biographie, vous expliquez du reste qu'il ne porte l'habit de roi, si l'on peut dire, qu'à quelques occasions dans le règne, quand vraiment c'est nécessaire pour impressionner des
émissaires. Ce n'est pas du tout l'homme qui se complaît dans le grand manteau azur brodé de fleurs de lys d'or. Non, il est tout à fait heureux quand il est à cheval, mais non pas pour aller à la guerre, ce qu'il n'aime pas. Il l'a fait courageusement. Mais il est heureux quand il va à la chasse. Il chasse d'ailleurs à pied, il chasse à l'épieux quand il chasse l'ours, et pas l'ours, excusez-moi,
le loup.
Le loup. Et finalement, non, je voulais dire le sanglier, pardon, ce lapsus. Mais finalement, c'est un homme qui n'accepte pas les conventions. On lui dit un roi, c'est comme ça. Il dit non, un roi, c'est moi, donc un roi, c'est comme je suis.
Ce sera comme je
Prenez-moi
voudrais
comme
qu'il
je
soit.
Suis. Oui. Et il y a quelque chose qui pourtant étonne et qui va un peu en sens inverse. Il n'accepte pas les conventions, il n'accepte pas les ordres. Mais il y a une phrase qui m'a toujours étonné, j'ai d'ailleurs mise à la dernière ligne de mon livre sur Louis XI. L'un de ses principaux conseillers, pratiquement le seul qui soit vraiment un ministre, parce que Louis XI se méfiait de tout le monde, y compris de ceux en qui il avait soi-disant confiance, lui avait tenu tête, et je ne sais plus quoi, et Louis XI lui écrit, on a la lettre, « Souvenez-vous que vous êtes le serviteur de l'État comme je le suis. »
Il ne dit pas,
je suis le maître de l'État, il ne dit pas le roi c'est moi, il ne dit pas « l'État, c'est moi ». Il dit « je suis le roi, donc le serviteur de l'État ». Ça, c'est extrêmement important pour voir l'extraordinaire originalité de ce personnage.
Personnage qui aura, en quelque sorte, forgé la France moderne. Alors,
il y a quelque chose qu'il faut retenir à son actif du point de vue politique et moral. Il est le fils de Charles VII. Charles VII, il y a le pauvre petit dauphin, le malheureux garçon qui n'était pas fait pour être dauphin. Il a perdu deux frères avant d'être le dauphin. Le Charles VII qui ne sait pas où aller, que Jeanne d'Arc réveille un peu. Et puis aussi sa belle-mère. Bon. Mais le grand Charles VII, celui des années, disons, 1435 et suivantes, c'est l'homme qui dote la France monarchique d'un appareil d'État qui crée des institutions qu'on n'avait jamais eues et des fonctionnements d'institutions qu'on n'avait jamais imaginés. Je ne prends que quelques exemples. Il dote la royauté française d'une armée permanente, ce qui veut dire qu'il ne sera pas à chaque campagne obligé de recruter les serviteurs de l'armée de l'adversaire la veille. Bon. L'armée permanente, qu'on appelle les compagnies de l'ordonnance, c'est extraordinaire. Deuxièmement, de l'impôt permanent, il dit... Ça, c'est bien le Louis XI manœuvrier. Il dit aux gens qui viennent tous les ans aux États généraux pour voter l'impôt, écoutez, vous venez, ça vous coûte beaucoup d'argent de venir. Et finalement, comme je suis le roi, vous votez l'impôt que je vous demande. Bon, on va faire une économie, vous ne viendrez plus. Et il devient le maître de ses finances. Ce que,
une armée des finances, ce sont les institutions régaliennes qui se mettent en place.
Attention, il lance la...
Mais ça, c'est le père.
C'est Charles VII. Il lance la rédaction, la réforme des coutumes. Or, la coutume, quand elle change tous les 10 kilomètres, bon, ben, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de jurisprudence possible. Et il n'y a par conséquent, aucune capacité d'avoir une justice royale en dehors de celle qui est au sommet, celle du Parlement de Paris.
C'est presque une harmonisation de la loi avant la lettre.
Normalement, il n'avait pas le droit. de retoucher à la commune, qui est le droit privé. Il le prend, il le fait admettre en plus. Voilà un homme qui aura vraiment donné des structures à la France.
Donc mais tout ça, c'est bien Charles VII.
Hein, ça, c'est Charles VII.
Louis XI
devient...
Le père de Louis XI.
Louis XI, on n'y reviendra sans doute pas parce qu'on ne veut pas tout faire en une demi-heure, est fâché avec son père. Il est terriblement fâché avec son père. Son père l'a attaqué alors que l'autre était en rébellion complète. Ils sont ennemis et je ne pense pas abuser en disant que la mort de Charles VII a fait plaisir à Louis XI. D'ailleurs, il a pris du temps avant d'aller saluer le corps. Hein.
C'est cette mort dont on va célébrer le 550e anniversaire dans un mois.
Et puis du couronnement du sacre
de l'avènement de Louis XI.
Oui. Mais à la mort de son père qui est un ennemi, Louis XI qui est en exil à ce moment-là, revient d'urgence pour se faire couronner et flanque à la porte tous les conseillers de son père. Deux ans plus tard, il les avait tous rappelés. Parce qu'il a compris qu'il fallait continuer l'œuvre de son père et non pas la casser. Il est de ces rares successeurs qui ne se croient pas grands en cachant ce qu'on a fait avant eux.
Mais c'est ce côté serviteur dont vous parliez.
Le résultat, c'est qu'il ne va plus avoir à créer les organes de la royauté. Il va essayer de créer maintenant un royaume de France qui soit maître partout dans le royaume. Autrement dit, à annexer dans le domaine du roi les principautés qui n'y étaient pas. Le royaume que prend... À la mort de Charles VII, Louis XI est un royaume qui comprend des duchés, des principautés, des comtés qui sont presque
indépendants. Une mosaïque incompréhensible.
Et qui conçoivent leurs relations avec le roi comme des relations d'alliance. Bon, le duc de Bourgogne, il est le vassal du roi de France pour le duché de Bourgogne. Mais il considère qu'il est l'ennemi ou l'allié. Bretagne, même chose. Bon, et là, ce que va réussir Louis XI, c'est qu'à la fin de son règne, eh bien, l'État... ce qu'on appelle l'État angevin. Alors, ne parlons pas du royaume de Naples, mais la Provence qui n'était pas dans le royaume, le duché d'Anjou, le Maine, et ça rentre dans le domaine royal, le roi est chez lui. On ne parle après les échecs successifs du frère du roi Charles de France. On ne parlera plus jamais d'un duché de Guyenne indépendant, comme ça avait été le cas au temps des Plantagenets. On ne parlera plus jamais d'un duché de Normandie, comme on a tenté de le reconstituer pour faire plaisir à Charles de France, le frère du roi. Et puis, la Bourgogne est de nouveau rentrée dans le royaume de France. Et ne nous y trompons pas, quand on aura les ducs de Bourgogne au XVIIe siècle, ils ne seront pas maîtres de la Bourgogne, ils seront les serviteurs du roi.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et c'est un monarque de grande envergure et qui a joué un rôle essentiel dans la construction de la France qui est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1, Louis XI.
Mais là, je crois qu'on l'a bien compris grâce à ce tableau que vient de brosser Jean Favier avec ce talent et ce feu qui n'appartiennent qu'à lui. Alors, dans le petit récit de la première partie, Jean Favier, je parlais de cet antagonisme entre Louis XI et Charles le Téméraire. Ça va quand même être un bras de fer interminable entre les deux cousins.
Alors, il y a un héritage d'abord, qui est l'héritage du parti de Bourgogne contre le parti des Armagnacs. Bon, c'est un héritage qui...
Ça nous ramène à Jeanne d'Arc, qu'on connaît. Bon.
Qui, au mieux bien avant, qui même nous ramène avant, à la minorité de Charles VI. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'un roi de France est mineur sans avoir sa mère à ses côtés. Saint-Louis, il y avait Blanche de Castille. Là, Charles VI, il n'y a pas. Donc, ce sont les frères de son père, ses oncles, le duc de Bourgogne, le duc de Berry,
alors,
le duc d'Anjou.
On va pas revenir à cette période de Charles VI, parce que pour le coup, ça risque
oui,
d'embrouiller ceux qui...
Oui, mais ils se battent pour l'assiette au beurre, voilà. Si je puis dire. Résultat des opérations, il y a déjà un très vieil antagonisme entre Bourgogne et la couronne de France. Alors, quels sont les intérêts des deux? L'intérêt du duc de Bourgogne, c'est qu'il est l'héritier, lui, de deux ensembles territoriaux. L'un, c'est celui de son arrière-grand-père, le duc de Bourgogne, le premier Philippe duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Et puis l'autre, c'est celui de l'épouse de cet arrière-grand-père, qui était la comtesse de Flandre. Des conquêtes, des acquisitions dans les conditions très diverses sur lesquelles je ne reviendrai pas, font...
Ça fait un territoire très étendu, mais, tout en longueur,
oui,
qui monte jusqu'à...
Voilà. Mais coupé en deux. Ben oui. Au nord, ça va jusqu'à la Zélande. En comptant le Hainaut, en comptant même le Luxembourg dans les dernières décennies. Et puis au sud, il y a la Bourgogne, il y a les deux Bourgognes, et la Franche-Comté aussi. Mais entre les deux, il y a la Lorraine. Et la Lorraine, c'est un prince français. Et la Lorraine, à elle seule, empêche la constitution de ce grand État bourguignon qui a été la réalisation incomplète de son père, celui qu'on appelait le grand-duc d'Occident, Philippe le Bon. Bien. Ça, c'est l'ambition du
téméraire.
Comme de son père. De l'autre côté, vous avez le roi de France, qui voit très bien que si le duc de Bourgogne, occupe toute la lisière orientale du royaume, alors que le duc de Bourgogne s'allie presque en permanence avec le duc de Bretagne, eh bien lui, le roi Valois, le roi de France, il est pris dans un étau. Il faut éviter l'étau de Bourgogne. Alors sur ce, ajoutez-y, eh bien, Louis XI, c'est pas un mystère, tout le monde le sait, plutôt que de faire lui-même la guerre, il a fait faire par les autres, il subventionne. Il a payé les Suisses, il a payé pas mal de gens.
Et là, en l'occurrence, il a essayé de fomenter des révoltes dans la Flandre, justement.
Oui,
et...
mais... Ajoutons une chose, le téméraire s'y prend très mal. Le téméraire veut aller trop vite. Il veut occuper la Lorraine. Les Lorrains ne veulent pas passer sous le joug. Et puis, il rêve. Quand on est la quatrième génération de ducs de Bourgogne, pour lesquels on peut parler d'État bourguignon, eh bien, on commence à rêver d'une couronne royale. Et il essaie de mettre la main sur cette couronne royale.
Parce que ce duché est un État d'une très grande puissance et richesse.
Quand on sait que les empereurs du Saint-Empire romain germanique sont pour la plupart de petits princes. Les Habsbourg, c'est pas des grands possessionnés. Bon, le duc de Saxe, c'était un peu plus. Mais imaginez si le téméraire de la Zélande au Jura était le maître de tout. Il serait le plus puissant des princes germaniques. S'il était élu roi des Romains, ça veut dire bientôt empereur, et l'empereur est obligé de céder, dit oui, pourquoi pas. Mais il en fait trop. Le téméraire fait peur aux autres princes qui comprennent ce qui arrivera plus tard avec les Habsbourg, qui comprennent que si l'un des princes est trop puissant, il assurera la pérennité de sa famille.
Au détriment des autres.
Dans le Saint-Empire romain germanique, il y a élection à chaque génération, encore à ce moment-là. Par conséquent, il fait peur et il y aura cette scène de tromperie extraordinaire où il partira de Trèves à la cloche de bois, si je puis dire, de nuit parce qu'il a compris que l'empereur le lâchait. Alors vous avez donc un roi de France qui va payer tout ce qu'il faudra pour que le téméraire s'effondre. Et puis, il faut quand même bien le dire, l'armée du duc de Lorraine s'est défendu parce que c'était quand même leur identité profonde qu'ils étaient en train de défendre. Alors, vous le savez, un beau matin de janvier 1477, alors qu'il fait le siège de Nancy, eh bien, on trouve, mangé à demi par les loups,
le corps
de celui qui avait été l'un des princes les plus importants de l'époque.
Charles le Téméraire.
De Charles le Téméraire.
Finalement, Louis XI était allé au bout de...
Il ira au bout quand il réussira à mettre la main sur la moitié de l'héritage, c'est-à-dire à faire entrer... Pas la totalité de ce qui était dans le nord, mais la quasi-totalité de ce qui était dans le sud, c'est-à-dire le duché de Bourgogne, qui devient l'un des duchés, l'une des principautés annexées au domaine royal français.
La façon dont procède Louis XI n'est jamais très franche ou directe. On a l'impression qu'il est
manœuvre.
Toujours...
Ouais. Et vous savez, on lui a reproché d'être un grand manœuvrier. Aujourd'hui, on dirait qu'il préfère la diplomatie à la guerre. Et on lui a reproché d'entretenir des espions partout. Aujourd'hui, ça s'appelle le FBI et ça s'appelle les renseignements généraux. Si on ne sait pas ce qui se passe chez les autres, on ne gouverne pas. On lui a reproché, c'est une chose très grave, ce reproche est une ânerie, pardonnez-moi le mot, de premier ordre. Le traité de Picquigny. Traité de Picquigny, 1475, le roi d'Angleterre débarque une nouvelle fois en France pour recommencer la guerre 100 ans. Et le roi de France le traite fort bien et lui verse 500 000 écus. 500 000 écus, alors honte
pour économiser.
Le roi de France a payé même pas une victoire, il a payé le départ de l'ennemi. C'est pas un roi chevalier. Est-ce que je peux rappeler qu'une année de guerre coûtait 500 000 écus et que pour le prix d'une seule année de guerre, il a mis fin à une guerre de 100 ans qui en réalité durait depuis 300 ans. Alors, pardonnez-moi, mais l'économie elle est singulière et j'ajouterai une chose que je ne peux pas prouver, mais j'en suis à peu près certain, c'est qu'en envoyant 500 000 écus d'or en Angleterre, il a flanqué par terre tout l'équilibre du marché monétaire anglais.
Et ça, c'était peut-être pas prévu, mais en tout cas, si vous pensez qu'il savait très bien ce qu'il faisait.
Ça, c'était parfaitement prévu.
C'était un joueur d'échecs, finalement.
Tout à fait. Et on le voit bien quand il joue aux échecs avec le roi René, son oncle. Et pour en arriver à ce que ça se passe dans les derniers moments du règne de Louis XI, toutes les dispositions soient prises pour que l'ensemble Provence, Anjou, Maine tombe dans l'escarcelle du roi. Et c'est un joueur d'échecs. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, et avec un grand talent...
On va y venir, Jean-Fabien.
Oui, mais vous avez évoqué Péronne. Je dirais très simplement...
Là, il a été pris de court.
Il soutenait toutes les révoltes des Liégeois, mais il leur avait pas dit de se révolter au moment où il serait chez ses ennemis.
À l'époque, on n'avait pas les téléphones portables, donc évidemment, la communication était un tout petit peu plus lente.
Et c'est la seule fois où il s'est fait avoir par naïveté, il n'a pas recommencé.
C'est vrai que la naïveté n'était pas le principal de...
Mais vous savez, vous avez une fausse manœuvre qui est célèbre aujourd'hui.
On va y venir juste après la publicité.
Ah bien, d'accord.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et nous vous proposons sur Europe 1 l'extrait d'un chant de Noël du 15e siècle.
On ne met pas beaucoup de musique dans cette émission, parce que comme le dit Jean Favier, il n'était pas très musicien, il n'avait pas l'oreille
pas très littéraire.
Il ne plaisait ni à la littérature, ni à la musique, mais à l'action.
Un homme d'action, c'est ça, un vrai politique.
C'est la seule chose qui l'intéresse.
Ah oui, un politique dévoré par cette passion, du reste.
Alors, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il a des relations diplomatiques par correspondance suivie avec Milan, avec Venise, avec l'Aragon. Il ne se contente pas de ce qui se passe à sa cour. D'ailleurs, alors, il n'a pas de cour.
Il reste
un petit entourage et pas de courtisans.
Il nous reste peu de temps, Jean Favier, mais vous aviez commencé, au moment où je vous ai coupé la parole, à nous parler de la fausse manœuvre de Balu.
Oui, ça fait partie de la légende noire de Louis XI. Ça,
le cardinal.
Il y a les médailles au chapeau, alors que les médailles de dévotion n'ont été inventées qu'au XIXe siècle, et quelques autres affaires de ce genre. Mais... Je commençais à vous parler de l'affaire Balu, parce que c'est le contraire. C'est le contraire de l'affaire de Péronne. Balu, qui est cardinal, conseiller du roi, un homme intelligent, ambitieux, et je serais tenté de dire un peu retors, décide de montrer au roi, de faire la preuve auprès du roi de sa fidélité. Comme personne n'est jamais sûr d'être vraiment dans les bons papiers du roi, personne n'est jamais sûr de ne pas être mis à la porte du conseil le lendemain matin. Balu se dit, j'invente. Un faux complot contre le roi, je le déjoue et je dis au roi, je vous ai déjoué un complot contre vous. Malheureusement, quand on invente un faux complot, il arrive que le roi soit prévenu par d'autres voies. Eh oui, je vous parlais tout à l'heure des espions qu'il nourrit. On dit au roi, il y a Balu qui a monté un complot contre vous. Et Balu se retrouve dans la cage que vous savez. Alors la cage, parlons-en. 12 mètres carrés.
Feuse fillette, là.
Ah ben j'ai le devis. 12 mètres carrés. 3 mètres de haut. Dedans, un lit, un bureau... Une chaise.
Un joli petit salon.
Et une lampe.
Non, mais c'est pas une cage.
C'est le format de bien des chambres dans des logements actuels. Bon. Et de surcroît, on n'enferme Balu que la nuit. Parce que la nuit, c'est trop favorable aux évasions. Mais c'est en réalité un compartiment de sécurité. Alors quand vous voyez l'imagerie noire du 19e siècle surtout, avec un Louis XI accroupi devant Balu, le pauvre Balu recroquevillé dans sa cage et se moquant de lui, mais il n'a jamais été le voir et Balu n'était pas recroquevillé dans une cage de 3 mètres de haut.
Vous savez que c'est France 3 qui prépare pour le mois d'octobre là une dramatique qui va s'appeler Louis XI, le pouvoir fracassé. J'aimerais bien savoir justement quelle sera la part de cette légende noire dans ce téléfilm réalisé par Henri Hellman qui est avec nous au téléphone. Bonjour Henri Hellman.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup. Bonjour. Alors, c'est Jacques Perrin qui va interpréter Louis XI hein, dans votre...
Oui, absolument, absolument. Oui, et effectivement, il s'agissait pour nous de réhabiliter l'image d'un roi qui a été décrié, effectivement, victime de beaucoup de clichés.
Et donc, vous redressez tous ces torts, là, vous essayez de vous abstraire de la fameuse légende noire que dénonçait Jean Favier ?
On essaye surtout de montrer son génie politique.
C'est ça. Hein.
Louis XI a été un roi fondateur pour la France et c'est tout le but du film, effectivement.
Et est-ce que vous avez mis l'accent sur un aspect particulier, sur un épisode spécial de sa vie ?
Eh bien, écoutez, l'idée, on a utilisé une parabole. Le roi Louis XI, à la fin de sa vie, était inquiet parce qu'il avait échappé à plusieurs complots, plusieurs tentatives d'assassinat. Et l'idée est de... Et il s'agit d'un complot. Le matin de cette journée-là, il reçoit un messager qui le prévient d'une tentative d'assassinat au cours de son conseil des ministres. Mmh. Et nous allons montrer comment, grâce à son génie politique, il va déjouer cette tentative.
Ah voilà, vous le mettez en situation, ça c'est très bien. Quand est-ce qu'on pourra voir le film ?
Le film sera diffusé à l'automne, je pense en octobre, sur France 3.
Louis XI, le pouvoir fracassé, de Henri Hellman, ce sera donc sur France 3. Merci beaucoup de nous avoir dit un mot.
J'aimerais revenir sur la légende noire pour
il
dire une chose
20 secondes,
qui peut intéresser le cinéaste.
Oui.
La légende noire, c'est un Louis XI faux. Mais elle fait partie de l'histoire de France.
C'est ça, ça fait partie aussi
elle
du
mythe.
Elle
fait partie de l'histoire. La légende, elle est fausse quand elle décrit Louis XI, mais cette légende, elle appartient à l'histoire de France, au même titre que le Richelieu d'Alexandre Dumas appartient
Vous
à l'histoire
savez,
de France.
Ça, c'est toute la question. Lorsqu'on redresse un certain nombre de contre-vérités, on finit parfois par attenter à des mythes et à des légendes qui constituent aussi notre patrimoine commun.
Il faut tenir compte des deux.
Mais oui,
dire ce qui a été le vrai, mais de dire ce que les siècles en ont pensé.
Et ont cru, parfois, et de bonne foi. Merci infiniment, Jean Favier, de toutes ces lumières que vous nous avez fait
Merci
partager.
De m'avoir convié.